Salut les amis, bienvenue dans votre émission Club Foot. Cette semaine, on reprend les bonnes habitudes avec un club hack et un club Malherbe indépendant où l'on parlera de nos deux formations professionnelles de Ligue 2 en Normandie, mais aussi bien sûr de nos clubs amateurs avec comme point d'orgue aujourd'hui le 5e tour de la Coupe de France et le tirage de cette Coupe de France et du 6e tour. Ce sera pour demain mercredi à midi, évidemment on va en parler, mais pour parler de toutes ces affaires de l'ex-basse Normandie avec le Stade Malherbe de Caen et tous les autres, évidemment des spécialistes à commencer par Mathieu Billot du Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Sylvain, salut à tous.
Salut à toi Adrien Casanova du Courrier Cauchois.
Salut Sylvain, bonjour messieurs.
Et il fait son retour en notre compagnie, c'est toujours un immense plaisir que de l'avoir dans nos rangs, c'est Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Alors Mathieu Billot, je commence avec vous. Vous étiez le seul de nous quatre ici présents du côté du stade René soir dernier. Vous en avez pensé quoi de ce match de... Est-ce que, envie de vous dire, pour de vrai, parce que nous on avait encore le filtre de la télé, donc ça peut atténuer quelques petits trucs. Vous en avez pensé quoi, en vrai?
J'en ai pensé tout simplement qu'on a vu une équipe de Niort supérieure à une équipe de Caen, et donc l'équipe de Niort s'est logiquement imposée face à l'équipe de Caen.
Nettement supérieure dans pas mal de domaines d'ailleurs.
Oui, oui, sur ce match-là, oui. Il faut bien le dire, nettement supérieure, même si des faits de jeu auraient peut-être pu permettre au Canet de revenir avec un point, avec ce pénalty non sifflé sur Yann Cour avant la mi-temps, cette balle d'égalisation de Kélian Nsona, mais sur l'ensemble des 90 minutes, il n'y a strictement rien à dire sur la victoire de New York, qui a montré un bien beau visage, et un visage que je vois très peu souvent en Ligue 2 sur ce match-là.
Thèse de l'accident, thèse d'une équipe supérieure, selon vous, hein, Julien Mailleux, ou autre chose derrière tout ça?
Sans doute un peu des deux. On reviendra après sur la performance offensive qui, clairement, n'est pas du tout suffisante. En général, en fait, depuis le début de saison, on a un problème en attaque qu'on a encore vu cette fois-là. On a énormément de mal à se procurer des occasions. Le fait est que d'habitude, au moins, on est solide défensivement. Et là, on a complètement pris l'eau. On a concédé un nombre d'occasions, un nombre de tirs qui est absolument ahurissant. Et ben voilà, le résultat, il est tout à fait logique. Niort nous a écrasés dans ce match-là.
Bon, messieurs, c'est la première fois où l'on voit vraiment le Stade Malherbe de Caen en cette journée dépassé totalement par un adversaire jusqu'à maintenant. Et encore la semaine passée, quand on évoquait les trois prochains matchs à venir, à savoir celui de Niort, celui de Guingamp et ensuite le déplacement au Paris FC, on se disait voilà les premiers tests réels de la saison pour le Stade Malherbe de Caen. Mathieu Billot, le premier de ces tests, il n'est pas concluant. Est-ce qu'on doit en tirer des conclusions ou pas?
Non, parce que j'évite de tirer des conclusions après un match, après cette journée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réaction que l'équipe va montrer contre Guingamp. Et c'est là que c'est intéressant, parce que perdre un match ou rater un match, ça arrive à tout le monde. Maintenant, voir contre une autre équipe, qu'est-ce que ça peut donner, une belle équipe de Guingamp qui s'est imposée hier, qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, c'est ça la réaction à domicile, dans un contexte forcément particulier, avec la jauge réduite à 1000 spectateurs. Voilà, c'est plus la capacité de réaction de l'équipe qui m'intéresse. Voilà, le match contre Niort, il est raté, mais il est fini. Donc, il faut passer à autre chose et il faut voir comment ça va réagir.
Julien Mailleux, la réaction, c'est ce que vous attendez aussi
pour ce Oui, samedi. Après, alors, j'espère bien qu'on va réagir. Après, moi, en fait, je trouve que ce match-là confirme quand même des choses assez inquiétantes qu'on avait pu constater sur les dernières rencontres du Stade Malherbe. Défensivement, pour moi, on est sur vraiment un accident. Je ne pense pas qu'on cède autant d'occasions tous les week-ends. Là, vraiment, c'était catastrophique. Mais je pense que, et en plus, on a dû compenser avec des absents. Normalement, on devrait revenir à quelque chose de plus solide la prochaine fois. Par contre, offensivement, là, on a quand même une tendance qui se confirme, qui est assez inquiétante. On avait fait un bon match à Rodez, mais depuis Rodez, on a fait 4 matchs. On a marqué un seul but. C'était contre Amiens. Aucun but marqué sur les autres matchs. Et on n'est pas seulement sur une thèse du manque d'efficacité, d'occasions pas concrétisées. On est vraiment sur, on n'arrive pas à se créer des occasions. Donc j'ai regardé un tout petit peu les expected goals qu'on a pu se procurer sur chaque match.
Alors rappelez pour nos auditeurs et nos spectateurs ce que sont les expected goals.
Je vais rappeler. En fait, une équipe est notée de 0 à 1. C'est-à-dire que plus on s'approche de 1, plus c'était un tir qui est facile à mettre. Ça veut dire qu'en fait, on note les tirs en fonction de leur qualité. Si par exemple une équipe tire 7 fois au but, mais de petit nombre en expected goals, parce qu'elle avait peu de chances de de marquer. Donc, ça veut dire que, par exemple, les Chamois Niortais contre nous ont atteint 2,34. C'est beaucoup. Ça correspond à peu près, en fait, à leur victoire. Ils avaient marqué 3 buts. C'est cohérent. Nous, sur les 4 derniers matchs, on est à 1 contre Chambly. Donc, on aurait pu marquer un but, on ne l'a pas fait. 0,58 contre Valenciennes. 0,78 contre Amiens. Et 0,25 contre Niort. C'est un tout petit... Enfin, moi, c'est des tout petits chiffres pour une équipe de première partie de tableau. Et à mon avis, ça dit quelque chose de nos contreparties.
Mathieu Billot, est-ce que vous... Alors, je sais que vous vous intéressez également aux chiffres et à tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez la même chose sur vos analyses de match du Stade Malherbe depuis quelques semaines, Mathieu?
Oui, enfin, bon, ces chiffres-là, je les mets toujours entre guillemets. Moi, ce que je vois surtout, c'est que l'équipe de Caen, sur le début de saison, elle s'est construite à travers une identité défensive. Et c'est le fruit aussi d'une campagne de match de préparation qui n'avait pas été brillante dans ce domaine-là.
Absolument.
Et donc, il y a eu un changement radical à partir de la première journée, même à partir du dernier match de prépa contre Le Mans, avec un bloc solide, un bloc compact, qui laissait très peu d'occasions à l'adversaire. Et après, ça s'est se projeter assez rapidement sur les occasions. Là, la tendance, c'est que le bloc, moi, je trouve qu'il recule un petit peu de match en match.
La deuxième mi-temps contre Amiens avait quand même laissé entrevoir ce qui pouvait se produire à Niort.
Voilà, et donc il faut faire attention, enfin pour l'équipe de Caen, à ne pas s'enfermer dans une identité de jeu purement défensive. Et forcément, quand vous êtes mené au score, il faut proposer peut-être autre chose. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Après, il y a des prestations individuelles au sein même du collectif qui sont en dessous de ce que je pense que le coach attend, le staff attend. Et
j'allais y venir. Donnons quand même quelques exemples, parce que par exemple, on avait salué la qualité du milieu de terrain et de l'entrejeu cannais sur la première période contre Amiens. Face à Niort, il n'y a pas eu d'existence, j'ai envie de dire, entre guillemets, légale de ce milieu de terrain pendant 90 minutes. Quoi.
Non, mais de toute façon, dans tous les secteurs, Niort a été plus performant. Alors après, contre Amiens, le coach avait aussi souligné que le duo d'attaque avait fait un gros travail défensif, ce qui avait soulagé les lignes de derrière. Est-ce que le même duo d'attaque a fait le même travail contre Niort? C'est la question qu'on peut poser.
On peut dire que non.
Et donc, les milieux de terrain ont été plus exposés. Pour moi, c'est vraiment collectivement. Hein, c'est vraiment collectivement que ça ne l'a pas fait, même si on attend plus de certains joueurs. Donc, tout s'est mal goupillé. Pour le moment, on n'est pas parti sur une équipe de Caen, en tout cas dans le début de saison, qui va se procurer 10-15 occasions par match. C'est clair. Je pense qu'ils ont aussi été un petit peu traumatisés, peut-être de la saison dernière, où ils prenaient pas mal de buts. Pour gagner un match, des fois, il fallait en coller 3 ou 4, contre Niort, par exemple, la saison dernière. Donc là, ils ont décidé de changer, essayer de construire des bases. Alors, peut-être que l'absence d'Anto Weber, qui est pourtant parfois très décrié, a fait plus de mal qu'on aurait pu le penser.
Justement, on va pas l'incriminer, on va pas tirer à boulet rouge sur lui, mais le jeune Jason Ngouabi est totalement passé au travers, le pauvre garçon, pour sa première titularisation. Est-ce que c'est justement là où vous mettez en relation l'absence d'Anto Weber et la jeunesse d'Ngouabi sur ce match-là?
Jason Ngouabi, il a raté son premier match. Bon, c'est pas la fin du monde, il a 17 ans, il en fera plein d'autres.
Et puis on va pas l'accabler.
Certainement des très bons. C'est juste que tout est plus par rapport à Anto Weber, parce que c'est vrai que c'était la charnière qu'il forme avec Jonathan Rivière, ce qui lui, encore un an, a été plutôt performant. Cette charnière-là était plutôt efficace depuis le début de la saison. Et peut-être que c'est vrai que le fait qu'il soit pas là, ça a un petit peu déstabilisé l'édifice, sans que ça soit remettre en cause. Le talent de Jason Ngouabi, ça aurait pu être un autre, je pense que ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de ces cadres. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre dans certains secteurs de jeu. Et après, vous avez décidé de lancer des jeunes. Et quand vous lancez des jeunes, des fois, acceptez que les jeunes se plantent, parce que ça arrive.
Ça arrive, effectivement. Bon, Guingamp, vous en avez parlé tous les deux, messieurs, dans vos analyses. Il se profile ce match samedi après-midi à partir de 15h. J'aurai le plaisir d'être avec vous pour le commenter, Mathieu Billot. Ce match en direct et en intégralité sur Tendance Ouest Poitou. Tendance, évidemment, venez nous rejoindre parce qu'on se marre vraiment. Et qu'en plus, vous l'avez dit, Mathieu, la jauge est à 1000 spectateurs. Donc, entre payer très cher Téléfoot ou Bein et écouter la radio... Venez écouter la radio, on va bien se marrer ensemble, c'est sûr. Parenthèse fermée là-dessus. Maintenant, Guingamp, va falloir réagir. On parle tous de réaction, évidemment. Mais est-ce que Guingamp, finalement, avec une certaine idée de jeu, avec une certaine qualité aussi dans pas mal de domaines, comme ils ont pu le montrer hier contre Auxerre. Est-ce que ce n'est pas finalement un adversaire qui se prête à une réaction à domicile, Julien Mailleux ?
Je pense que c'est... Alors, moi, j'ai vu plusieurs matchs de Guingamp qui étaient quand même franchement pas fameux.
Hier, c'était moyen plus, c'était pas trop mal hier.
Ouais, bah, ça correspond plutôt à ce que j'ai vu. Alors, j'ai pas vu le match hier, mais ça correspond plutôt à ce que j'ai vu depuis le début de saison. C'est assez irrégulier. Ils ont quand même... Il n'y a pas d'idée directrice pour moi dans cette équipe-là. Donc, c'est une équipe qui se cherche encore. Il y a pas mal de remous en interne et on le sent. Je trouve que ça se ressent sur le terrain. Par contre, c'est une équipe voilà, qui est un peu plus prestigieuse que Niort. C'est un match sur lequel on doit se rattraper. Donc, c'est clairement, je suis d'accord, ouais, c'est un match sur lequel on peut, normalement, on doit faire beaucoup mieux, à la fois défensivement et offensivement. Voilà, c'est un match assez prestigieux quand même pour la Ligue 2 qui doit nous inviter à nous rattraper.
Qu'est-ce que vous attendez, Mathieu Billot, de cette équipe malherbiste samedi après-midi ?
Ouais, qu'elle remontre en partie le visage qu'elle a montré sur certains matchs précédents. Peut-être la première mi-temps d'Amiens. Voilà, quelques séquences de jeu contre Rodez, quelques séquences de jeu contre Ajaccio. Voilà, c'était plus ça. Hein. On avait souligné le défaut d'être brillant, en tout cas la cohérence du début de saison.
Absolument.
Dans des circonstances quand même un peu particulières. Hein. Changement d'actionnaire, recrutement tardif. Et au final, le recrutement, il n'y a pas 36 joueurs nouveaux sur lesquels Pascal Duprat peut compter.
Qui joue exactement, ouais.
Donc voilà, j'attends ça, parce que je trouvais que le début de saison avant Niort était plutôt cohérent. Donc ça correspondait un petit peu à ce que j'attendais. Donc s'il remontre ce visage-là, voilà, après, il faudra voir aussi le niveau de l'équipe d'en face, parce que Amiens, c'était pas non plus une équipe qui a montré grand-chose, ni Ajaccio, donc il faudra voir quel visage montrera aussi l'équipe de Guingamp. Donc à voir tout ça... Ça permettra, je pense, autant Guingamp que PFC de se donner une petite idée, de savoir si, quand, peut-être un candidat au top 5.
J'allais y venir, on en parlait avec nos camarades consultants dans cette même émission, messieurs. On parlait de tests sur les trois matchs à venir, donc celui de Niort, celui de Guingamp et celui de Paris FC. C'est ça dont vous parlez, Mathieu Billot, le test pour savoir si, quand, bah, on a dans le gilet pour être dans les cinq premiers.
Bah, souvent, on dit qu'on fait une première photographie au bout de 10 journées. Après PFC, ça fera 9. Suivront Nancy et après la fin internationale, le derby contre le Havre. Donc, je pense qu'après la 11e journée, vous aurez une idée à peu près de où vous pouvez vous situer.
Et pour l'instant, votre idée, elle situe le Stade Malherbe de Caen où, pour l'heure ?
Pas dans les 5 premiers, en tout cas. Mais c'est juste une...
Julien Mailleux, pareil ? Pas dans les 5
premiers. Je suis d'accord. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, une équipe qui n'est pas capable de se procurer davantage d'occasions ne peut pas viser les 5 premières places. Défensivement, je suis d'accord avec Mathieu. Hein, défensivement, c'est cohérent. On a réussi à régler pas mal de problèmes qui se posaient à nous l'an dernier. Par exemple, on est bien moins souvent pris en profondeur derrière les défenseurs. Donc ça, c'est bien. Mais une équipe qui arrive à se procurer aussi peu d'occasions et à marquer aussi peu de buts que sur les 4 derniers matchs, on peut clairement pas espérer monter. Non, en effet.
Après, juste pour préciser, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, bien sûr que si la montée se présente, personne à Caen va la refuser. Mais je suis pas sûr que ce soit un objectif affirmé et déclaré.
Non, au-delà d'être l'objectif, vous en parlez tous et on en parlait tout à l'heure avec les camarades dans Clubac, messieurs. Cette Ligue 2, elle est tellement homogène là tout de suite que finalement, quand, comme le Havre, font tous les deux partie d'un gros top 8, d'où peuvent se dégager n'importe quelle formation finalement aujourd'hui.
Bah, c'est un top 12, voire un top 15, hein, faut pas se tromper.
J'ai du mal avec la TVA et tout ça, j'étais sur 8, 12, je ne sais plus exactement.
L'équipe de New York, pour connaître un petit peu le club de New York, mais je ne sais même pas s'ils seraient en mesure de monter en Ligue 1 compte tenu de ses infrastructures. Et ça ne les empêche pas d'être deuxième et de proposer un football plutôt sympathique sur la rencontre de samedi. C'est pareil, le PFC, qui a fait un très bon recrutement, mais l'année dernière, ils sauvent un peu rack. New York, on n'en parle même pas, ils sont sauvés pour 4 buts. Donc c'est vraiment homogène. Les gros ou supposés gros, ou on les présente comme gros parce qu'ils ont un palmarès, un nom, Guingamp, Caen, Le Havre, Auxerre, bah, ils sont où? Bah, ils sont dans la deuxième partie. On a trop tendance à juger les clubs par rapport au nom qu'ils ont et au nom de leur effectif qu'au potentiel réel de leur équipe.
Absolument, absolument. Messieurs, c'est l'heure d'aborder la Coupe de France à présent, le cinquième tour. Et là, Adrien Casanova est dans les starting blocks parce que c'est notre spécialiste Coupe de France, je peux vous le dire. Il est en capacité de vous citer le nom du capitaine de chaque formation encore en course dans ce sixième tour de Coupe de France. Adrien Casanova, tout à l'heure, avec nos camarades de Clubac, on a fait un peu les tops et les flops du cinquième tour en Haute-Normandie. Venons-en maintenant au sud de la Seine et à la Basse-Normandie. Quel est votre top et votre flop, Adrien, du Courrier Cauchois pour ce cinquième tour de Coupe de France côté Bas-Normand ?
Côté Bas-Normand, dans les tops, je mettrais Avranches, sûrement qui a confirmé et obtenu une qualification solide. Et puis dans les flops, alors je ne sais pas si on peut parler de flops puisqu'ils ont obtenu leur qualification, mais Saint-Lô qui a dû patienter jusqu'à la séance des tirs au but pour franchir ce tour-là et aller au tour suivant, au sixième tour. Donc bon, alors c'est un flop relatif. Hein. On sait que la Coupe de France est toujours difficile. On en a parlé déjà tout à l'heure dans Club Bac.
Mais encore bon, depuis qu'il n'y a plus de prolongation. C'est encore plus compliqué pour nous.
Exactement. Les équipes inférieures ont tendance à essayer de fermer le jeu au maximum pour essayer d'aller accrocher cette séance de tir au but où là, c'est plutôt, on le dit souvent, une sorte de loterie. Bon, voilà. Après, malgré tout, ils ont tenu leur qualification, mais ça serait entre guillemets le flop que je pourrais avancer.
Mathieu Billot, vous avez battu les terrains de Basse-Normandie le week-end dernier. Votre top et votre flop de ce cinquième tour ?
Eh bien, mon top, je vais donner un terrain sur lequel j'étais, ça sera plus simple comme ça. Donc mon top, c'est le parcours de Troyes, qui s'est fait éliminer donc, par l'US Avranches, comme mentionné par Adrien. Voilà, un club de R3 qui fonctionne un petit peu à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien et qui propose du très bon football. Franchement, c'est un club comme on les aime. Pour le flop, je vais citer un petit peu par défaut l'élimination de l'ASPTT Caen par Falaise qui a réussi le seul exploit.
C'est un flop top finalement parce que vous floppez l'ASPTT Caen et vous floppez Falaise.
Je dis, c'est par défaut parce que c'est la seule équipe chez elle. Je pense que c'est une grosse déception quand même pour l'ASPTT parce que c'est vrai que quand vous êtes une R1, il y a une R2 chez vous. Vous êtes en droit quand même d'attendre à une qualification, mais voilà, cette équipe de Falaise, elle est aussi surprenante dans cette Coupe de France cette saison. Avec la trilogie des frères Angebar. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et c'est un peu décevant pour les SPTT. On peut se mettre à leur place.
Julien Mailleux, je vois dans vos yeux, ne m'interroge pas sur la Coupe de France, je n'ai rien suivi, mais je pense que vous allez me surprendre. Vous allez me surprendre.
J'ai vu en effet, j'allais parler également de l'équipe de Troarn, dont j'ai vu qu'elle a été éliminée, mais que visiblement elle a livré une belle partie. Il y a même des joueurs qui sont sortis sur une haie d'honneur de leurs adversaires, donc je trouvais ça l'image assez chouette.
Tout à fait, exactement. Sixième tour maintenant, messieurs, tirage ce mercredi. Adrien Casanova, je recommence avec vous. Votre match préféré, votre match rêvé en Basse-Normandie, ce serait quoi ? Ou même au niveau de la Normandie, avec un adversaire bas-normand ?
Ça pourrait... Tout à l'heure, on parlait d'une confrontation sur l'ex-Haute-Normandie entre QRM et le FCR. On pourrait aussi voir une belle confrontation entre QRM et Avranches. On retrouverait deux candidats nationaux. Ce sera un gros choc d'entrée. Ça pourrait tout à fait être une affiche sympathique.
Et pour vous, Mathieu Billot du foot normand, votre match qui vous ferait saliver, celui où vous seriez à coup sûr.
Et je suis en train de regarder et je me dis pourquoi pas un petit Saint-Loup-Avranches.
Saint-Loup-Avranches, dans la Manche, exact, pour les deux. Ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement. Julien, vous avez un match rêvé aussi.
Okay. J'allais dire la même chose, j'allais dire Avranches-Saint-Lô.
Avranches-Saint-Lô. Alors Avranches-Saint-Lô, c'est pas la même quand même, parce que ce serait beaucoup plus compliqué pour Saint-Lô. Déjà que ça le serait à la base, mais là, pour du coup, d'aller à Avranches, ce serait difficile, ils pourraient même pas y aller de toute manière.
C'est pas possible
parce que ce sera forcément Saint-Loup-Avranches chez notre camarade Timonel, effectivement. Bah oui, il y a deux divisions d'écart. Merci messieurs d'avoir réinauguré ce club Malherbe, séparé à nouveau de son frère jumeau du Club Hack, des émissions que vous pouvez retrouver en continu sur la plateforme de podcast de tendanceouest.com et sur toutes les applis Tendance. Sortiront dès ce soir, dès ce mardi pour tous les passionnés de foot. Et rendez-vous, évidemment, notez dans vos agendas. Je serai avec Mathieu Billot samedi après-midi à partir de 15h sur tendanceouest.com et toutes les applis pour vous commenter. Stade Malherbe de Caen, en avant Guingamp. D'ici là, passez une très bonne semaine. Foot, évidemment. Salut.
Podcast by Tendance Ouest.